Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans le passage de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. C'est Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8, qui nous dit « Frères, attendez donc patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de la dernière saison. Vous aussi, attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Puisse Dieu réellement éclairer notre vision spirituelle afin que nous puissions retirer des leçons profondes de ces paroles que nous avons sans doute déjà lues si souvent, mais que Dieu cherche à renouveler dans notre entendement et dans notre expérience. C'est ma prière au nom de Jésus. Bonjour à tous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je reviens à vous pour faire suite à notre méditation de la semaine dernière que j'avais intitulée « Dans l'atmosphère de l'amour divin ». Et de la même manière que notre étude la semaine dernière était introduite, était démarrée par la réflexion sur le monde dans lequel nous vivons, et sur l'atmosphère dont il nous est si facile d'être imprégné, eh bien de la même manière, j'aimerais avec vous ici que nous réfléchissions quelques instants en lien avec ce passage et cette réflexion que nous voulons avoir sur le chapitre de Jacques, sur ce passage de Jacques, chapitre 5, à savoir que dans le contexte, des derniers jours où l'injustice est omniprésente et où nous sommes nous-mêmes en proie à être contaminés par l'iniquité multipliée, la parole de Dieu nous lance donc cet appel. Jacques, chapitre 5, verset 7, nous le relisons. « Frères, attendez donc patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de la dernière saison. Vous aussi, attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » On voit ici qu'il y a un lien entre notre attente patiente et l'affermissement de nos cœurs. N'est-ce pas? Vous le voyez ici. Attendez patiemment, affermissez vos cœurs. Pourquoi? Car l'avènement, le retour du Seigneur Jésus est proche. Et la question qui se pose ici, c'est comment l'affermissement de nos cœurs dans la patience est également exprimé autre part. Comment? Voilà. Eh bien, nous le voyons dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, notamment. Jacques chapitre 1, verset 2 nous dit « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. » Ne manquant en rien, pourquoi? Pour l'avènement du Seigneur. D'ailleurs, c'est de la même manière que c'est exprimé dans 1 Corinthiens chapitre 1, au sujet du témoignage de Christ, qui comme l'apôtre Paul nous le dit, s'il est confirmé en nous, fait que nous serons, il ne nous manquera aucun don. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, verset 6, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez ici que dans notre attente pour le retour de Jésus, nous avons besoin de patience et le sens de cette patience, c'est que cela implique un affermissement de nos cœurs et cela est directement lié à notre exposition aux diverses tentations face auxquelles il faut que l'épreuve de notre foi qui produit la patience, nous mène et que nous acceptions d'être conduits par cette épreuve, conduits par ces tentations, à une patience qui est une efficacité parfaite, comme c'était marqué dans Jacques chapitre 1, verset 4, mais que la patience est une efficacité parfaite, ou comme c'est marqué dans la Bible King James, que la patience est son œuvre parfaite. Et quelle est l'œuvre parfaite de la patience, c'est que nous-mêmes soyons rendus parfaits et accomplis, comme nous le dit le passage d'un Corinthiens chapitre 1, versets 7, 6 et 7 et 8. 6 et 7 et 8, ça commence au verset 4, ça termine au verset 8. Donc vous voyez ici, il y a quelque chose qui vient à nous en ces derniers jours, lié directement à ces derniers jours, car comme nous allons le voir par la suite dans Jacques chapitre... Car nous le voyons ici, que c'est directement lié aux ces derniers jours, car vous lisez dans Jacques chapitre 5, voilà, je ne l'avais pas marqué dans les notes, mais c'est écrit ici, c'est inscrit dans ma mémoire. Jacques chapitre 5, verset 1 nous dit, « À vous, riches maintenant, pleurez et jetez des cris à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Hein, la parole de Dieu avertit les personnes qui ont amassé des richesses, qui se sont amassées des richesses de plaisir également, et qui les ont accumulées pour les derniers jours. À cause des malheurs qui vont tomber sur vous, verset 2, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés des vers, votre or et votre argent se sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. » Vous voyez donc l'avertissement aux riches vis-à-vis des malheurs qui vont tomber sur eux, c'est directement en lien avec les derniers jours. Vous comprenez? Et donc, c'est dans le lien avec ces derniers jours que nous est ensuite adressée l'exhortation, frères, attendez donc patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et ensuite, c'est réitéré au verset 8, attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, nous avons vu, et nous continuons de voir, que vis-à-vis de la patience que nous devons développer en ces derniers jours, il est question d'un affermissement de nos cœurs. Et cela est directement lié à notre caractère, car il est question d'une résistance à la tentation. Dans Jacques chapitre 1, il était question d'éprouver une parfaite joie face aux diverses tentations qui nous arrivent, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. D'accord? Mais il faut que nous permettions à l'épreuve de produire en nous une patience parfaite. De produire en nous un caractère parfait et accompli, ne manquant en rien pour le retour de Jésus. Et donc, nous voyons que nous sommes, en réfléchissant au contexte dans lequel toutes ces choses sont valables et s'appliquent à nous, nous voyons et nous constatons que nous sommes souvent tentés et éprouvé. Mais notre patience n'est en réalité rendue parfaite que lorsque nous patientons fidèlement et que nous persévérons pour faire le bien. Hein? Et donc cela nous ramène à ce fameux passage d'Apocalypse chapitre 14, verset 12, vous le connaissez très bien, au sujet de cette bannière qui caractérise ce peuple des 144 000, ce peuple qui a cette foi dans le message du troisième ange. Et vous le voyez ici, Apocalypse chapitre 14, verset 12 nous dit, c'est ici, je le lis tel que c'est marqué dans la Bible Ostervald, après je fais allusion à tel que c'est écrit dans la Bible Second, je crois, c'est ici, verset 12, la patience des saints, la patience, nous parlions de patience au sujet de l'avènement du Seigneur qui est proche, au sujet de l'affermissement de nos cœurs, au sujet de notre résistance à l'épreuve, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc la patience dont il est question ici, et d'ailleurs cela nous rappelle ce langage qui est employé dans la Bible Second, à savoir c'est une persévérance. Donc il ne s'agit pas uniquement d'être capable d'attendre patiemment pour quelque chose, mais il s'agit de persévérer dans quelque chose jusqu'à quelque chose, à savoir jusqu'au retour de Jésus. Donc, c'est de cette patience-là dont il s'agit réellement. Oui, il s'agit également d'avoir une patience tranquille, de savoir patienter, mais il s'agit aussi de savoir persévérer et de vouloir et de choisir de persévérer face à la tentation, face aux épreuves. Et afin de pouvoir élargir ici notre réflexion, quels sont des aspects de la vie chrétienne qui sont bibliquement, pas évidemment, mais qui sont toutefois bibliquement liés à notre vocation à la patience et à attendre patiemment l'avènement du Seigneur? Eh bien, nous laissons la parole de Dieu répondre à cette question, d'ailleurs, parce que c'est elle qui, en réalité, nous la suscite dans Jacques chapitre 5, verset 9, où nous lisons ici des choses, j'allais dire, oui, fascinantes, profondément, qui nous lancent réellement des défis en lien avec cet appel à la patience. Verset 9, Jacques chapitre 5, verset 9, frères, ne vous plaignez point les uns des autres, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici, le juge est à la porte. Mes frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous regardons comme heureux ceux qui ont souffert avec constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job, et vous connaissez la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Verset 13 maintenant. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Verset 16. Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et donc nous sommes ici en train de lire au sujet de cet appel à la patience dans le contexte des derniers jours. Cet appel d'ailleurs qui est donné en lien direct avec cet avertissement lancé à ceux qui ont amassé des richesses, mais qui les ont amassées uniquement comme un trésor pour les derniers jours voués à être détruit et qui est d'ailleurs déjà aux yeux de Dieu rouillé et pourri. Des richesses pourries et des vêtements rouillés, rongés de verre, c'est ce que Dieu, c'est comme cela que Dieu voit les richesses accumulées avec une telle rapacité, une telle cupidité et une telle cruauté, comme le sont souvent par les hommes qui aujourd'hui sont appelés les millionnaires et les milliardaires de cette terre. Mais toutefois, l'avertissement ne se borne pas uniquement à être adressé aux riches, mais ensuite Dieu se dirige directement vers son peuple et il dit, voilà, c'est le monde dans lequel vous vivez, et donc, vous aussi attendez patiemment à fermisser vos cœurs. Et donc, avant que nous poursuivions ici au sujet de ce que nous venons de lire dans les versets 9 jusqu'au verset 16, pourquoi est-il question d'un affermissement de cœur? Mais à part la question de la patience, parce que nous pouvons parfois penser que, oui, nous sommes patients. Nous sommes patients, nous avons développé ce trait de caractère où nous ne sommes pas impatients. Nous sommes patients. Mais il est possible d'être patient et malgré tout d'être infidèle. Vous avez déjà pensé à ça? Par exemple, il y a beaucoup de personnes ici, dans ce monde, qui sont profondément patients et qui seront pour autant profondément perdus et damnés, condamnés, et qui auront part à la deuxième résurrection des morts, afin de pouvoir avoir part à la destruction des méchants. Mais pourtant, ces hommes-là ont de la patience. Ce sont des bouddhistes, ce sont des hindouistes, ce sont des athées, ce sont des chrétiens évangéliques, ce sont des catholiques. Ces personnes-là ont une certaine mesure de patience, mais pourtant, ces personnes-là ne seront pas dans le royaume. Et donc, c'est pour cela que la Bible réunit deux aspects que nous ne réunissons pas naturellement, à savoir être patient et affermir nos cœurs. Affermir comment? Les affermir dans la justice, les affermir dans la fidélité, les affermir dans la pureté, les affermir dans la constance. Hein? Nous lisons au sujet de Job, vous avez entendu parler de la constance de Job. Et vous connaissez la fin que le Seigneur lui accorda. Et cela est donné comme un exemple de souffrance et de patience que nous devrions donc imiter afin de pouvoir nous aussi la pratiquer, pratiquer cet exemple de souffrance et de patience, afin que nous puissions attendre patiemment en affermissant nos cœurs jusqu'à l'avènement du Seigneur. Parce que nous vivons dans un monde où, parce que l'iniquité s'est multipliée, eh bien nos cœurs sont tant défaillants et nous avons perdu cette faculté à nous concentrer. Et c'est pour ça que la Bible nous donne cet avertissement, cette exhortation directement sur mesure, hein, cousue sur mesure pour nous qui en ces derniers jours, avant tant, sommes tant plongés dans cette atmosphère mondaine. Et c'est pour ça, la Bible dit, affermissez vos cœurs. Sur quoi vos cœurs sont affermis? Est-ce que vos cœurs sont affermis sur le sable? Est-ce que vous nagez dans l'esprit de ce monde? Ou est-ce que vous êtes véritablement affermis, enraciné en Christ? C'est à cette réflexion que la parole nous conduit ici. Et en lien avec ce que nous venons de lire dans les versets 9 notamment, qu'est-ce qui est une activité directement liée avec notre exhortation à la patience? Quelque chose à quoi nous ne penserions peut-être pas naturellement. Quelle est une des manières dont Dieu éprouve notre patience et cherche à conduire notre caractère à la parfaite patience, à la parfaite persévérance, à un parfait affermissement de nos cœurs dans la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Jacques chapitre 5, verset 9 nous disait, Frères, ne vous plaignez pas les uns des autres, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici le juge est à la porte. Qu'est-ce que c'est? Quelle est une des choses? Ne vous plaignez point les uns des autres. Et donc j'ai élaboré cette liste de tous ces éléments qui sont directement liés avec notre appel de Dieu à la patience pour attendre patiemment le retour de Christ. Le premier est notre appel à la patience consiste à ne pas nous plaindre les uns des autres. Quand est-ce que nous nous plaignons? Nous plaignons parce que cela démontre notre impatience. Au lieu d'être patient pour que des âmes, nos frères et nos sœurs, hein, parce que c'est de cela dont il s'agit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Il dit, frères, ne vous plaignez pas les uns des autres. Donc il dit, il parle de cette disposition naturelle à nous plaindre les uns des autres, soit en parole, soit en pensée, soit en action. Et il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Et donc c'est une des manières dont nous cultivons la patience, c'est en ne nous plaignant pas les uns des autres, en ne déplorant pas les caractères défaillants des autres, en ne nous plaignant pas les uns des autres à d'autres ou à nous-mêmes des erreurs, des défaillances, des chutes même des autres. Non, ne vous en plaignez pas. Plus encore, qu'est-ce que c'est d'autre? Nous sommes appelés, cet appel à la patience consiste à ne pas nous condamner les uns les autres. Hein, qu'est-ce que c'était marqué? Ne vous plaignez pas les uns des autres de peur que vous ne soyez condamnés. Et autre part, il est écrit, ne jugez pas de peur que vous soyez vous-même jugé. Donc c'est de cette question dont il s'agit. C'est le jugement qui est une condamnation. Lorsque nous discernons les choses, il n'y a pas de mal à cela, mais lorsque nous jugeons, nous estimons d'une personne qu'elle ne peut pas être sauvée, qu'elle ne peut pas revenir, qu'elle ne peut pas s'améliorer, et que nous l'enfonçons plus en bas, nous parlons en mal de son caractère, nous estimons que ce caractère de cette personne, elle est définie par cela. Vous comprenez? Imaginez que Dieu fait cela avec nous. Et je ne serais même pas en train de vous parler. Donc, ne pas nous condamner les uns des autres est une partie est partie principale de cet appel à la patience. Ne pas être impatient les uns envers les autres. Donc, l'inverse, c'est cultiver la patience les uns envers les autres. Nous allons examiner cela davantage. Ne pas nous condamner les uns les autres. À savoir, même Jésus n'est pas venu pour juger ou pour condamner le monde. Même Jésus n'est pas venu pour cela. Mais il est venu pour sauver le monde. Vous le lisez dans Jean chapitre 12, versets 47 et 48. Jésus est venu non pas pour juger, condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et donc de même aussi, il dit, comme je vous ai fait, faites aussi les uns envers les autres. Faites ce que je vous ai fait. Troisièmement, nous sommes appelés à nous inspirer des exemples bibliques de patience et de souffrance. Vous avez Job, vous avez Élie, parce que vous lisez au sujet d'Élie qu'au verset 17, il était un homme sujet aux mêmes affections que nous. Néanmoins, il pria avec instance qu'il ne plût point. Et il ne plut point sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ce n'est qu'un des exemples bibliques de souffrance et de patience. Pas uniquement un exemple de souffrance, mais un exemple de patience. De patience dans la souffrance face aux diverses tentations, épreuves, comme nous lisions au chapitre 1. Ça, c'est le troisième point, à savoir, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que des fois, nous lisons la parole de Dieu et nous disons, oui, je le crois. Sauf que la raison pour laquelle cela nous est dit, c'est, parmi d'autres raisons, que Dieu ne veut pas que nous nous inspirions des exemples fragiles et faillibles des hommes modernes. Vous comprenez? Parce que comment pouvons-nous affermir nos cœurs si nous prenons pour exemple des gens de notre temps plutôt que du temps où Dieu a donné des leçons en lien avec les erreurs. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas donné des leçons en lien avec les erreurs des gens dans lesquels nous vivons, dans ce monde moderne, et donc nous prenons leur exemple, mais nous n'avons pas de leçons. Nous ne savons pas quelles leçons tirer de leur exemple, qu'ils soient bons ou mauvais. Et donc, la parole de Dieu nous dit, Prenez pour modèle de souffrance et de patience, non pas vos frères et sœurs, mais les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. C'est le quatrième point. Ou plutôt, c'est le troisième, excusez-moi. C'est le 1, 2, 3. J'ai marqué le troisième point. Quatrième point, notre appel à la patience consiste à souffrir avec constance dans la pleine assurance de la miséricorde et de la compassion que le Seigneur réserve pour les siens. Cela fait aussi partie de notre appel à la patience pour pouvoir attendre patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc il ne s'agit pas uniquement d'être patient pendant un certain laps de temps, c'est de cultiver une telle patience qu'elle nous conduira jusqu'au retour de Jésus. À savoir que nous la cultiverons jusqu'à ce qu'elle ait abouti à une perfection, hein, une efficacité parfaite. Hein, regardez comme heureux ceux qui ont souffert avec constance. Hein, et nous aussi, nous devrions les regarder comme heureux, afin que nous aussi, nous regardions comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui nous arrivent, afin que dans elles et en elles, nous soyons fidèles. Nous soyons constants. Parce que dans la souffrance, souvent, comme d'ailleurs dans la prospérité, mais c'est une autre question, dans la souffrance, souvent, c'est là que nous défaillons. Nous voulons bien être fidèles quand tout va bien, mais ensuite, quand les choses ne vont pas dans notre sens, alors, oh, nous baissons les bras, nous jetons le torchon, comme ils disent en anglais, et puis nous passons à autre chose. Nous arrêtons d'être fidèles parce que Dieu il m'a abandonné, donc j'abandonne Dieu. Donc, comme si, comme ça. Non. Souffrir avec constance. En prenant pour exemple les personnes dont on sait la fin. Parce que nous ne savons pas notre fin, donc nous disons « Dieu Seigneur m'a abandonné, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver ». Non, mais nous avons l'exemple de ceux dont Dieu nous a donné le récit entier de ses relations avec eux. Tout particulièrement Job, dont le récit est plein. Et il nous a montré la fin que le Seigneur lui accorda. Quelle est cette fin? Elle révélait que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. De quoi nous pouvons tirer une assurance pour nous-mêmes, quoique nous ne voyons pas et que nous ne connaissions souvent pas l'avenir. Immédiat du moins. Nous savons l'avenir terminal, mais l'avenir immédiat, souvent, nous l'ignorons. Maintenant, 1, 2, 3, 4. Pour le cinquième ange, j'ai marqué « prier dans la souffrance ». Qu'est-ce que c'est marqué? Verset 13. « Quand quelqu'un parmi vous souffre-t-il, qu'il prie ». Qu'est-ce qui nous arrive? Souvent quand nous souffrons, pareil, c'est ce que nous disions. Dans l'épreuve, nous arrêtons d'être fidèles. Dans la souffrance, nous arrêtons de prier. Pourquoi? Parce que nous sommes si accaparés. Nos émotions, nos pensées, nos sentiments accaparent notre pensée et nos et tout. Et donc, la prière, ça devient secondaire. Et la parole de Dieu nous dit, si vous souffrez, priez. Si quelqu'un souffre parmi vous, qu'il prie. N'est-ce pas? Et à cela vient s'ajouter la condition opposée, à savoir, si quelqu'un, nous sommes appelés à chanter dans la joie. À savoir, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Oui, parce que dans la prospérité, dans la joie, il est facile pour nous de nous asseoir sur nos lauriers, alors comme si nous méritions toutes les choses que nous avons accumulé, les bénédictions que nous avons reçues, non, elles ne sont pas méritées, elles ne sont pas un dû, elles sont un don, et pour chaque don que nous recevons de Dieu, nous devrions cultiver la reconnaissance, chanter, adorer Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes que des pauvres créatures, et nous devrons, et c'est dans notre meilleur intérêt, de reconnaître notre dépendance envers Dieu. Cela nous élève plus proche de notre seul créateur. Donc, chanter dans la joie, à savoir louer Dieu. Autrement, également, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septièmement, j'ai marqué solliciter les prières de l'Église dans la maladie. Très intéressant ici. On y réfléchit peut-être pas, en fait. Mais souvent, il y a des choses qui sont juste en plein devant nos yeux, on ne les a jamais vues. Qu'est-ce que cela veut dire? Solliciter les prières de l'Église. Verset 14. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Hein? C'est très intéressant. Et on peut se dire, oui, bon, quand je suis malade, je ne vais pas toujours appeler les anciens. Mais il y a un principe sous-jacent vis-à-vis de cet appel et cette exhortation ici. Alors, si vous avez un rhume, peut-être vous allez solliciter les prières, peut-être pas demander qu'on vous oigne d'huile. Si vous allez peut-être utiliser des remèdes naturels, ça va passer très vite. Mais vis-à-vis d'un cas très sérieux et de tous les autres cas dans lesquels nous pouvons retirer ce principe qui ressort de ce passage, cela veut dire que Dieu nous appelle et nous exhorte. Dieu nous appelle et nous exhorte à ne pas nous isoler nous-mêmes, à ne pas nous suffire à nous-mêmes loin du peuple de Dieu. Qu'est-ce que c'était le langage? Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il les appelle, qu'il ne reste pas dans son coin en disant, oui, Seigneur, tu vas m'aider, merci. Oh, eux, ils comprennent pas ma situation. Oh, personne ne me comprend. Non. Appelez-les, dites-leur, priez pour moi. Vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu dit cela? Pourquoi Dieu nous lance-t-il ce conseil? Ce n'est pas un conseil optionnel. C'est un conseil qui est destiné à cultiver en nous l'esprit de codépendance dans l'Église de Dieu. Plutôt que de chacun nous isoler nous-mêmes les uns des autres et nous séparer donc de la communion du peuple de Dieu. Ça, c'était la septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, excusez-moi. 7, maintenant, 8. Et vous allez voir que c'est encore lié à cela. Le huitièmement, j'ai marqué, c'est en lien avec ce qui est marqué au verset 16, confesser, confesser à ceux que nous avons offensés, blessés, insultés, manqués de respect, etc. La liste peut être longue, mais si vous prenez déjà ces éléments principaux, voyez en quoi consiste et quel est le sens approfondi de cet appel des versets 7 et 9 qui sont comparés à la patience de l'agriculteur. L'agriculteur patiente que la semence lève et qu'elle pousse. Qu'est-ce que c'est? Nous aussi, nous devrions être patients. Patients pourquoi? Patients les uns envers les autres. Ne vous condamnez pas les uns les autres, nous avons vu. Ne vous jugez pas, condamnez pas les uns les autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Et confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Vous pensez que Dieu lui a donné que ça puisse avoir une efficacité parfaite. Vis-à-vis de notre appel à une patience qui est une efficacité parfaite, cela rentre-t-il dans ce cadre-là? La question se pose, mes frères et sœurs. Nous pouvons nous dire, Seigneur, tu vas me sauver tout seul. Tu vas me sauver tout seul. Mais que se passe-t-il ici vis-à-vis de cela, alors? Confessez vos fautes les uns aux autres, priez pour les uns pour les autres. Et cela est directement lié à l'exhortation de Dieu, à notre attente patiente, l'affermissement de nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Vous comprenez? Nous voulons contempler honnêtement, en toute sincérité de cœur, la parole de Dieu et nous demander, Seigneur, est-ce que j'ai fait cela? Est-ce que je fais cela? Et si je ne fais pas cela, eh bien, je peux venir à Dieu, confesser. Hein, en toute assurance qu'il pardonnera tous mes péchés, et maintenant emprunter le chemin de la réforme. La réforme de quoi? Pas la réforme uniquement des formes, mais la réforme du cœur. La réforme du cœur. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns aux autres, les uns pour les autres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une bonne idée? Non, non, pas parce que c'est une bonne idée, juste afin que vous soyez guéri. Afin que vous soyez guéri. À savoir, la parole de Dieu nous appelle à chercher la guérison, et donc c'est le neuvièmement, c'est directement lié à ce septièmement. La parole de Dieu nous appelle, nous exhorte. Ce n'est pas une option, c'est une exhortation pour notre préparation pour le retour de Jésus-Christ, afin de cultiver la patience en nous. La parole de Dieu nous exhorte à chercher la guérison de nos relations rompues, brisées, délaissées, fragilisées. ou peut-être dans l'autre sens, nos relations fragilisées, délaissées, brisées, rompues, etc. Et comment pouvons-nous chercher la guérison? En confessant nos fautes les uns aux autres, en priant les uns pour les autres. Vous voyez donc ces principes sous-jacents en dessous de ces conseils-là à appeler les anciens, etc. Maintenant, frères et sœurs, comment et en quels termes la prière de la foi est-elle davantage présentée? Parce qu'elle nous était mentionnée au verset 15, hein, qu'il appelle les anciens s'il est malade, ils prieront pour lui, ils loigneront d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Comment est-ce que cette prière de la foi est davantage exprimée? Vous le lisez ici au verset 17 et 19. Donc nous avons lu au sujet d'Élie, au verset 17. Élie était un homme sujet aux mêmes affections que nous. Néanmoins, il pria avec instance, qu'il ne plût point, et il ne plût point sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Verset 19. Frères, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Réfléchissez ici quelques instants avec moi, frères et sœurs, je vous demande. La prière de la foi, comment la prière de la foi est-elle élargie? Tout d'abord, l'exemple d'Élie nous est donné. Et ensuite, nous revenons à la question des relations. C'est comme quoi on pourrait dire, mais je pensais que c'était lié à la prière pour la pluie. Pourquoi est-il question des relations? Parce que c'est de ça dont il s'agit vraiment. Alors bien entendu, vous me direz, oui, ça peut également parler d'autre chose. Il y a de nombreuses choses pour lesquelles la prière de la foi est efficace. Notamment la maladie, comme c'était présenté au verset 14 et 15. Mais ensuite, au verset 16, vous avez cette parenthèse au sujet de la confession, de la guérison des relations. Et ensuite, au verset 19, il est question de notre intérêt pour les frères. Remarquez le langage ici, au verset 19. Écoutez bien, Jacques chapitre 5, verset 19. Frères, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu, ça s'adresse aux frères hein, de l'Église de Dieu, et ensuite il dit, si quelqu'un d'entre vous, d'entre les frères. Donc, si quelqu'un parmi les frères s'écarte de la vérité, comment la prière de la foi et la foi dans la prière se manifestera? En déployant des efforts persévérants, hein, la patience rentre en compte, en déployant des efforts persévérants afin de ramener un pécheur du sentier de l'égarement. Et comment et de quelle manière Jésus a-t-il également présenté la prière persévérante? Vous le lisez dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41, c'est une réitération, c'est directement lié d'ailleurs, vous allez voir, Matthieu chapitre 26, verset 41, dans le jardin de Gethsémané, Jésus priait, il avait exhorté ses disciples à prier, ceux-ci n'avaient pas du tout prié en réalité, du moins ça n'avait rien à voir avec l'appel, et il leur disait ici dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez ». De peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Donc, qu'est-ce que c'est? La prière de la foi. Jésus disait, veillez et priez. Et donc, Au sujet d'Élie, il était question qu'il était dit de lui qu'il pria avec instance, n'est-ce pas? Et donc, la seule conclusion à laquelle nous pouvons parvenir ici, en prenant chaque passage l'un à côté de l'autre, c'est que prier avec instance, c'est veiller dans la prière. Hein? Veiller et prier, cela veut dire veiller dans la prière. C'est la même chose. D'ailleurs, l'esprit de prophétie emploie ce langage précisément. Et également, c'est un autre parallèle que nous pouvons faire, c'est-à-dire que la prière de la foi, c'est ce que je dis, c'est une vie active dans la prière animée par une foi qui agit. Hein, c'est le langage de Galates, je ne sais plus exactement le chapitre, où il est question de la foi qui agit par la charité ou l'amour. Et c'est donc animé par cet amour de Dieu, nous avions contemplé l'atmosphère de l'amour divin dans notre méditation précédente, animé par cet amour de Dieu, hein, l'amour que Dieu a manifesté envers nous, non pas que nous avions de l'amour pour lui, mais qu'il a eu de l'amour pour nous, qu'il a fait naître cet amour, et étant animé de cet amour, comment notre attente patiente du retour de Jésus se traduira-t-elle dans nos relations avec nos frères et avec nos sœurs? Qu'est-ce que c'était? Frère, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Avec quel esprit, frères et sœurs, devrions-nous chercher à ramener du sentier de l'égarement ceux qui se sont égarés et qui sans doute s'égarent encore? Comment? Premièrement, en pratiquant toutes les choses que nous avons vues précédemment ici, dans tout ce chapitre. Si vous avez la mémoire courte, je vous invite à le relire ou à réécouter ceci. Mais si vous relisez, va vous revenir en mémoire les choses que nous avons mentionnées. Hein? Donc, pour pouvoir ramener dans un frère du sentier de l'égarement, il nous faut pratiquer ces choses-là. Hein? Donc, si vous voulez ramener quelqu'un de l'égarement, mais que vous n'êtes pas prêt à confesser vos fautes, vous pouvez oublier, ça ne va pas fonctionner. Si vous voulez ramener quelqu'un de l'égarement, mais que vous avez un esprit enclin à vous plaigner, à vous plaindre les uns des autres, à condamner les uns des autres, vous pouvez oublier, ça ne va pas fonctionner. Si nous ne sommes pas d'une trempe, que nous sommes constants dans l'épreuve et la souffrance, vous pouvez oublier, ça ne va pas fonctionner. Si, lorsque nous souffrons, nous ne prions pas, nous pouvons oublier la question de chercher à ramener quelqu'un de l'égarement, ça ne va pas fonctionner. Si, lorsque nous sommes dans la joie, nous ne chantons pas, nous ne louons pas Dieu, nous ne serons pas d'une grande efficacité pour ramener quelqu'un de l'égarement de la vérité. Mais si nous faisons toutes ces choses, nous cherchons à rester en communion avec Dieu, à cultiver cette attente patiente, à affermir nos cœurs en Jésus-Christ, de manière réelle, pas virtuelle, eh bien, avec quel esprit devrions-nous chercher alors à ramener du sentier de l'égarement, comme c'est marqué au verset 20 à la toute fin, en couvrant une multitude de péchés. Vous vous tournez ici, justement, en lien avec cela, vers le passage de Proverbes chapitre 10 et verset 12. Proverbes chapitre 10 et verset 12. Où ces paroles extrêmement succinctes nous sont rapportées, à savoir, Proverbes chapitre 10, verset 12, « La haine excite les querelles, mais la charité, à savoir l'amour, l'amour couvre toutes les fautes. » L'amour couvre toutes les fautes. Qu'est-ce que ça vous rappelle? N'est-ce pas l'amour de Dieu? Donc, n'est-ce pas l'amour agapé qui fait cela? Il n'y a que l'amour agapé qui fait cela. Nous avons lu lors de notre étude précédente, semaine dernière, au sujet de cet amour de Dieu dont nous nous inspirons. Hein? C'est l'amour que Dieu nous a manifesté, c'est lorsque nous étions. D'ailleurs, nous allons le voir d'ailleurs, dans Romains chapitre 5, oui. Avant que nous y venions, nous voulons réfléchir à ce passage ici qui est chargé de sens, frères et sœurs, chargé de sens. Dieu nous mène au bien en mettant en lumière le mal dont nous sommes si souvent animés, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas espérer parvenir à une efficacité parfaite de notre patience si nous n'avons pas réellement été confrontés à la profonde méchanceté qui souvent anime nos cœurs dégénérés. Qu'est-ce que c'est? La haine excite les querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Dites-moi, si nous sommes animés d'un esprit disposé, ne serait-ce que disposé, à découvrir les fautes de ceux qui se sont égarés et qui s'égarent encore, est-ce que nous pouvons ramener les brebis égarées du Seigneur? Si quelqu'un vient à vous et tout ce qu'il a dans le cœur, si ce n'est sur la langue, c'est vos propres fautes, de parler de vos fautes, est-ce que vous aurez envie de revenir vers lui? Et d'ailleurs, réfléchissez, lorsque nous ne revenons pas à Dieu, pour quelle raison est-ce? C'est parce que nous ne pensons pas qui Dieu est vraiment. Nous pensons à la manière dont le diable a dépeint Dieu à notre imagination, mais nous ne pensons pas à qui Dieu est vraiment, parce que si nous pensions à qui Dieu est vraiment, eh bien nous penserions à ce que Dieu, à comment Dieu s'est manifesté à nous, tel que c'est marqué dans Romains chapitre 5, verset 8. Et vous allez faire le lien directement ici. Romains chapitre 5, verset 8. Quelle est la manière dont Dieu, comme un pasteur, a cherché à ramener nous qui nous étions égarés jusqu'à la perdition totale de nos âmes. Romains chapitre 5, verset 8, nous lisons « Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que... » Comment est-ce que l'amour de Dieu éclate? C'est ça la vraie question. « Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Comment est-ce que Dieu fait éclater son amour? C'est que lorsque nous étions encore des rebelles, obstinés, dégoûtants, complètement dégradés, Christ a donné sa vie pour nous sauver. C'est ça l'amour de Dieu. C'est comme ça que Dieu fait éclater son amour et nous réfléchissons, mais Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu viens à moi? Vous comprenez? À savoir, Dieu a manifesté son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu est venu à nous et ne nous a pas parlé de nos fautes. Dieu est venu à nous et n'a pas cherché à nous condamner. Dieu est venu à nous et n'a pas cherché à se plaindre de nous. Dieu est venu à nous et elle a montré son sang. Dieu est venu à nous et nous a montré ses mains ensanglantées, son cœur brisé, son esprit lacéré et son corps chargé de nos péchés sur le bois. Vous comprenez? C'est ça l'amour qui couvre toutes les fautes. Ça, l'amour. Et d'ailleurs, vous le lisez au verset 6 et au verset 10. « Car lorsque nous étions encore sans force, Dieu vient à nous, nous sommes sans force. Aucune force pour l'aimer, aucune force pour réagir, aucune force pour réagir positivement. Nous sommes complètement zéro, rien du tout, neutre. Dieu vient à nous comme cela. Christ est mort en son temps pour les impies, verset 10. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Lorsque nous étions sans force, ennemis, pécheurs, Christ a donné sa vie pour nous. Et le Père a donné son Fils, manifestant le même amour. Nous voyons donc, hein, j'abrège, que Dieu est venu à nous, pécheurs, impies, ennemis, et a cherché non pas à agrandir le gouffre qui nous séparait de lui, mais à y dresser un pont. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces illustrations où la croix est comme un pont qui fait le lien entre deux falaises, avec un gouffre. La croix est comme le pont par-dessus le gouffre. C'est ça l'amour de Dieu. Vous comprenez? Et donc, en lien avec notre appel dans Jacques chapitre 5, nous disons, enfin, je veux dire, nous comprenons, c'est la conclusion à laquelle nous parvenons ici, nous comprenons que lorsque nous faisons notre devoir chrétien envers nos frères, envers nos sœurs, l'amour de Dieu en nous cherchera à dresser des ponts plutôt qu'à creuser des fossés. Hein, c'est ça la question. Est-ce que lorsque nous venons à nos frères, nous voulons, soi-disant, les ramener, mais nous sommes prêts à creuser d'autres fossés? Ce n'est pas l'amour de Christ qui est en nous qui fonctionne. L'amour de Christ cherche à dresser des ponts. Et si dans nos cœurs, nous ne sommes pas disposés à revenir, à confesser nos péchés, ce n'est pas l'amour de Christ qui anime, parce que nous sommes encore en train de nous plaindre dans nos cœurs. Nous devons déposer toutes ces choses-là. Si nous voulons réellement être dans une disposition de cœur que nous sommes en train d'attendre patiemment l'avènement du Seigneur. Plus encore, comment cet amour de Dieu se trouve-t-il directement dans la ligne de mire de notre méditation sur la patience? Vous le voyez dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, vous connaissez le passage, mais il prend davantage de sens, pourrait-on dire, à la lumière de cette réflexion sur les relations. Parce que c'est dans le cadre des relations que nous exprimons l'amour. Parce que l'amour envers Dieu, c'est bien, mais comme nous le dit le livre, l'épître de 1 Jean, si je dis que j'aime Dieu mais que je hais mon frère, je suis un menteur, la parole de Dieu nous dit. N'est-ce pas? Et donc, quel est cet amour de Dieu duquel nous pouvons tirer une leçon pour nous, qui voulons avoir une attente patiente, parfaitement patiente pour Jésus-Christ? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 3. Nous pouvons commencer par lire cela. Je lis « Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité » Je vais lire à chaque fois, je vais changer « charité » par « amour ». Ça va beaucoup nous aider. Et je vais dire aussi, entre parenthèses, que cet amour dont il est question, c'est agapé. C'est l'amour de Dieu. Je vais le lire comme cela. « Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point l'amour, je suis comme l'airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point l'amour, je ne suis rien. » Et quand même, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand même, je livrerai mon cœur, mon corps pour être brûlé. Si je n'ai point l'amour, cela ne me sert de rien. Et bien entendu, verset 4. L'amour est patient. L'amour est patient. L'amour agapé est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il n'est point malhonnête, il ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'aigrit point, il ne pense point à mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il supporte tout, il croit tout, il espère tout. Il endure tout. Verset 8, l'amour ne périt jamais, etc. Pour conclure ici notre méditation, ici frères et sœurs, je vous présente cette interrogation qui nous permet d'élargir notre réflexion dans le temps, à savoir combien de fois Dieu a-t-il dû faire preuve d'une patience divine face à notre résistance, face à notre réticence, face à nos rébellions, à nos désobéissances, à nos infidélités, etc. Pourquoi cette question? Eh bien, parce que c'est précisément cet amour-là que Dieu nous appelle à imiter et à manifester à l'égard de ses enfants. Et oui, cela est lié à notre attente patiente de Christ. Car quand il vient, il ne vient pas que chercher nous, il ne vient pas chercher que nous, que vous et moi. Non, il vient chercher son peuple. Il n'est pas marqué qu'il vient chercher celui-ci ou celui-là, il vient chercher son peuple. Et son peuple, c'est une entité. Et pour faire nous-mêmes partie de cette entité que Dieu, Jésus, viendra chercher, eh bien, nous ferions bien, frères et sœurs, vous et moi, de pratiquer, d'humilier nos cœurs pour pratiquer ces choses-là, pour implorer le pardon de Dieu, pour confesser nos fautes, non pas simplement à Dieu, mais aux hommes. Parfois, nous venons à Dieu, nous disons « Seigneur, pardonne-moi, maintenant c'est terminé ». Mais Dieu, il ne veut pas que nous nous demandions pardon si nous avons offensé nos frères, nos sœurs, insulté, manqué de respect, hein, détruit la réputation. Ce n'est pas à Dieu qu'il faut demander pardon, c'est à eux. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est? L'amour est quoi? L'amour est patient. Lorsque nous ne sommes pas patients, nous n'avons pas l'amour. Lorsque nous ne sommes pas persévérants, certainement nous n'avons pas l'amour. Combien de fois avons-nous été dénués, frères et sœurs, de l'amour de Dieu? Soyons honnêtes. L'amour est plein de bonté. N'est point envieux. Parfois nous sommes envieux, nous sommes jaloux les uns des autres. Nous voulons une certaine position. Cette personne est élevée, on ne parle pas de moi, où est ma gloire? Nous sommes envieux, nous sommes jaloux, l'amour n'est pas cela. Donc si nous voulons être en harmonie avec Dieu, nous devons dire, Seigneur, vide-moi de cette envie, vide-moi de cette jalousie, vide-moi de cette animosité, vide-moi de cette inimitié contre mes frères et mes sœurs, vide-moi Seigneur, transforme-moi. Vous comprenez, frères et sœurs, c'est du sérieux. L'amour ne se vante pas. Hein, des fois, nous nous glorifions, nous parlons de ce que nous avons fait. Nous ne réalisons même pas. Nous disons cela parce que, oui, mais c'est la vérité. Oui, mais l'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil, n'est point malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'aigrit point. Ah, c'est facile, frère, c'est de s'aigrir. Hein, les personnes sont irritantes et donc nous nous aigrissons. Mais si nous délaissons, nous résistons à la tentation, à l'aigreur, à la haine, eh bien, que se passera-t-il? Nous serons remplis de cet amour. Nous avons besoin de lâcher nos idoles afin d'être remplis du Dieu vivant. Hein? L'amour ne pense point mal. Et c'est intéressant parce que dans la Bible seconde, je crois qu'il y a marqué l'amour ne soupçonne point le mal. C'est fascinant. Parfois, nous regardons les phrases de ça en nous disant « Ah, je suis pas trop sûr ». Ah, la personne, elle est mal intentionnée, cette personne, elle est mauvaise, cette personne, elle est inique, cette personne, ah, jamais tu seras sauvé, toi. Hein? L'amour ne soupçonne point le mal. Nous soupçonnons le mal, déjà Dieu n'est même plus agissant dans nos pensées. Vous comprenez? Cela nous arrive à nous tous, frères et sœurs, soyons honnêtes. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité et... Verset 7, hein, c'est la couronne, là. Verset 7. L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour endure tout. Lorsque vous voyez un frère ou une sœur ou qui que ce soit des frères dans l'église faire des choses qui ne sont pas bien, qui n'ont pas bonne apparence, nous ne supportons pas, nous n'espérons pas, nous ne croyons pas que cette personne peut faire mieux. Hein? Nous ne sommes pas animés de l'amour. Nous devrions cultiver la foi, l'espérance que Dieu ramènera ses brebis et que même, il pourra même nous utiliser si nous pratiquons tout ce que nous avons vu ici dans Jacques chapitre 5 et plus. N'est-ce pas? L'amour supporte tout. Supporte ce qu'on nous fait. Parfois, pour pouvoir guérir, nous avons besoin de pas attendre que la personne vienne demander pardon. Nous avons besoin de pardonner avant même qu'elle vienne à nous. C'est marqué ainsi dans l'esprit de prophétie. Parfois nous disons, oui, quand cette personne elle est prête, elle peut venir, alors je la pardonnerai. C'est pas comme ça la Bible qu'elle enseigne. C'est dès que nous sommes offensés, avant même que cette personne réalise même qu'elle nous a offensés, qu'elle nous a insultés, nous devrions dire, Seigneur, pardonne-moi. Elle ne sait pas ce qu'elle fait cette personne. Pardonne-moi et pardonne-la. Et comme ça, quand elle viendra, ça sera déjà fait. La personne viendra à vous et dire, mon frère, ma sœur, désolé, je sais, ça fait plus longtemps et tout, j'aurais dû te dire, mais là, j'aurais pas dû faire ça. Et là, on dira pas, ah oui, c'est vrai, Tu as raison de demander pardon. Non, non, rien du tout. On dira, oui, c'est vrai, mon frère, j'ai oublié, j'ai pardonné, j'ai oublié, j'ai passé l'éponge. Le Seigneur m'a pardonné tant de péchés. Comment je vais me pas te pardonner? N'est-ce pas? J'aimerais, pour terminer ici, frères et sœurs, lire cette citation fascinante de Conquérant Pacifique à la page 283 et paragraphes 2 et 5. Où l'esprit de prophétie cite ce passage d'un Corinthiens chapitre 13 et élargit. Voilà ce qui est écrit. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil. Voilà, la joie la plus parfaite a son origine dans l'humilité la plus profonde. Les caractères les plus forts et les plus nobles ont pour base la patience, l'amour et la soumission à la volonté divine. Qu'est-ce que c'est? Les caractères les plus forts et les plus nobles ont quoi pour leur base? La patience, l'amour, hein, agapé, et la soumission à la volonté divine. C'est le trio. Ensuite, ça continue. La charité n'est point malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal, tel que c'est écrit dans la Bible Second. Et ensuite, voilà comment c'est élargi. L'amour, semblable à celui de Christ, interprète dans leur meilleur sens les actes et les intentions du prochain. Hein? C'est ça l'amour qui ne soupçonne pas le moins, point le mal, pardon. C'est l'amour semblable à celui de Christ, qui interprète dans leur meilleur sens les actes et les intentions du prochain. L'amour, cet amour, ne fait pas connaître inutilement les défauts des hommes. Il ne prête pas l'oreille aux propos malveillants. Qu'est-ce que c'est? Il ne se réjouit point de l'injustice. Nous ne réjouissons point d'entendre des mauvais rapports. Non, nous fermons, je ne veux pas entendre. Je suis pas intéressé. Comment je vais penser ça de mes frères? Parle-en à quelqu'un d'autre. Il ne fait pas connaître inutilement les défauts des hommes. Il ne prête pas l'oreille aux propos malveillants. Mais il s'efforce au contraire d'attirer l'attention sur les qualités des autres. Hein? C'est ça l'amour agapé. Plus encore, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout. Il croit tout, il espère tout, il endure tout. Cet amour ne périt jamais. Il ne peut jamais perdre sa valeur, car c'est un attribut divin. Celui qui possède cet amour, pénétrera dans les parvis célestes chargé de ce trésor précieux. Si nous cultivons l'amour ici-bas, frères et sœurs, nous irons dans le ciel avec cet amour dans nos cœurs. Cet amour définira qui nous sommes, qui nous avons été, qui nous sommes et qui nous serons. C'est là que seront accomplies les fameuses paroles à la fermeture de la porte de la grâce. Celui qui est juste, qu'il soit juste encore. Celui qui est, je vais le lire, Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, que celui qui est juste soit que celui qui est injuste, pardon, soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, mais que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. C'est-à-dire que la sanctification, c'est non seulement l'œuvre de toute une vie, mais ça continue même après la fermeture de la porte de la grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stagnation dans la vraie vie, ou de la vie du vrai chrétien. Mais cette progression constante, elle ne peut être notre expérience que si nous cultivons l'amour agapé dans nos cœurs, dans notre relation avec Dieu, dans notre pratique de la patience et dans notre relation avec notre prochain et tout particulièrement avec nos frères et nos sœurs, afin que nous soyons prêts, parfaits et accomplis pour le retour imminent du Seigneur Jésus. Puisse, frères et sœurs, Dieu nous aider, que Dieu nous inspire, nous encourage à faire preuve de constance dans la souffrance comme dans la prospérité, à faire preuve de patience dans l'épreuve et à résister à la tentation, afin que nous puissions définitivement obtenir la couronne de justice. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. À très bientôt. Amen.